trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibout est à nos côtés, le responsable des actions européennes d'AXA IM. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Grégoire.
Raphaël Thuin également avec nous, responsable des stratégies de marché de capitaux de Tikehau Capital. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Grégoire.
Et Florian Yelpo nous accompagne, responsable macro chez Lombard-Odier IM. Bonsoir Florian.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. J'ai besoin d'explications sur ce qui se passe notamment du côté des marchés obligataires. Oublions les actions quelques instants pour se concentrer sur ces mouvements obligataires assez inhabituels. Je le disais en introduction, Florian, si on reprend la séquence depuis les annonces du 2 avril et du plan tarifaire de Donald Trump, les actions américaines ont perdu plus de 10%, on doit être sur des baisses de l'ordre de 12% pour le S&P 500, et on a vu, en tout cas depuis le début de la semaine, des marchés obligataires complètement renverser leur course. On achetait plutôt en sécurité le marché obligataire en fin de semaine dernière, et puis depuis lundi, il y a visiblement des ventes massives qui s'opèrent, puisqu'on a vu des taux longs à 10 ans, à 30 ans, reprendre 40, 50, 60 points de base en moins de 3 jours maintenant, dans un contexte, encore une fois, de stress, d'incertitude maximale, où ce genre d'actifs devrait bénéficier, au moins en partie, d'un statut de valeur refuge, et ça ne semble pas être le cas.
Surtout aux États-Unis.
Surtout aux États-Unis.
Et il est difficile d'oublier les actions dans ce contexte-là. C'est-à-dire que ce qui est vraiment surprenant, c'est le contexte action mis en miroir du contexte obligataire. Donc les taux US montent. Je pense qu'il faut se souvenir qu'il y a dans ce genre d'événement une forme de séquence. D'abord, il y a un mouvement de flight to safety, donc une fuite vers la sécurité où on se met à vendre nos actions, on commence à acheter des obligations qui semblent être normalement le placement le plus sûr. Au-delà de ça, on peut avoir ensuite un flight to liquidity parce que justement, on est forcé de liquider ses actifs. On est créé, parfois, on doit faire face à des appels de marge, un ensemble de systèmes, disons, du monde financier qui vont vous forcer à générer du cash. Alors, c'est peut-être en partie ce à quoi on est en train d'assister. Puis finalement, généralement, il y a un flight to opportunity. Mais c'est peut-être la question...
Ça, c'est la séquence suivante.
Voilà, c'est la séquence suivante.
Qui viendra un jour.
On se posera peut-être un peu plus tard.
Ouais.
Les obligations aujourd'hui, on peut se poser de la question du flight to opportunity parce qu'on a des yields qui sont quand même assez... des taux d'intérêt à terme qui sont relativement intéressants, relativement attractifs.
5% sur le 30 ans américain. On a touché à nouveau 5% sur le 30 ans américain au cours de la nuit passée.
Voilà. Après, pourquoi plutôt aux États-Unis et moins en Europe? C'est la deuxième question qu'on doit se poser. Je pense qu'il y a tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un enchaînement de coïncidences qui est en train de se produire. On a une dévaluation du renminbi qui se fait sur fond de vente de US Treasuries long terme. Au cours de la nuit, on voit bien les taux, disons, remonter jusqu'à 4,50 pendant la nuit, puis revenir un petit peu.
C'est une suspicion que la Chine est derrière la vente de ses obligations souveraines américaines. On le verra dans des chiffres à un moment de réserve chinoise, par exemple.
Pour l'instant, c'est des coïncidences. C'est tout ce qu'on peut dire à ce stade-là de notre point de vue. Il y a cet environnement de liquidation de ce qu'on appelle le basis trade, qui consiste à acheter des obligations américaines et vendre des futures, et la liquidation de ces positions-là, peut-être forcée également, qui a également pu amplifier le mouvement. On est face à une séquence, probablement cette séquence de recherche de liquidité, qui survient dans un moment où on est en train de négocier, où la Chine en tout cas est clairement dans une guerre totale contre l'application de ces barrières tarifaires, et en même temps un besoin de liquidité croissant, des tensions sur la liquidité au sein du marché américain. C'est probablement ce qui explique, en tout cas à court terme, les mouvements qu'on observe aujourd'hui.
Et si on est dans ce flight to liquidity où on est prêt à vendre, alors non pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut, c'est-à-dire les actifs les plus liquides du monde, est-ce que ça peut être un signal de début, de fin, d'un début de capitulation de marché d'une certaine manière?
C'est difficile à dire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans l'ensemble, les marqueurs de l'appétit pour le risque aujourd'hui reste au plus bas. On a notre propre indicateur d'appétit pour le risque qui balaye un petit peu les volatilités actions, les volatilités du marché d'échange, les spreads de crédit sur les marchés dérivés. Et quand on regarde le pourcentage de signaux qui sont en train de donner le signe potentiellement d'une stabilisation, on est à 0%.
D'accord.
Aucune des je crois 79 données D'accord. que l'on collecte quotidiennement ne D'accord. donne de signal d'amélioration à ce stade.
Bon,
la valorisation de marché reste un argument valable aujourd'hui. Les ménages américains aujourd'hui, les investisseurs privés américains ont participé à la stabilisation qu'on a pu connaître au cours des deux derniers jours en se plaçant en face des investisseurs professionnels qui étaient en train de liquider leurs positions.
Ouais.
Eux continuent à avoir de l'optimisme, pas dans les enquêtes,
non,
mais dans leur positionnement.
Oui. les achats de retail ont été massifs, les plus importants peut-être même depuis une décennie, c'est-à-dire surpassant même les achats qui ont été réalisés pendant la crise Covid, quand des hedge funds, des CTA, eux, dérisquaient massivement leur portefeuille dans le même temps depuis jeudi dernier. Raphaël, sur la dynamique des marchés obligataires, alors il y a un volant d'explications, effectivement, est-ce qu'il y en a qui sont plus satisfaisantes que d'autres ? Et puis, est-ce qu'il faut ouvrir la question du statut de valeur refuge des treasuries américaines dans le monde actuel et dans une gouvernance telle qu'elle est aujourd'hui conduite aux États-Unis par Donald Trump?
Ouais, tout ça, c'est effectivement les bonnes questions qu'on doit se poser en ce moment, et c'est ce qui fait aussi que peut-être cette épisode de volatilité, il n'est pas exactement comme les autres. On sent qu'effectivement, il y a une espèce de grincement, y compris dans la plomberie du marché, de liquidité, de levier excessif, qui sont en train de se mettre en place là, des rebalancements assez conséquents de positionnement, y compris d'acheteurs structurels, quand on parle de treasuries. Et donc, effectivement, quand on fait la liste, et Florian l'a très bien fait, la liste des causes, elles sont multiples. Évidemment, les perspectives d'inflation qui impactent le potentiel évolution des taux d'intérêt, perspectives de déficit.
Les break-even montent.
Les break-even montent, l'inquiétude est grande. On peut imaginer que c'est quelque chose qui va inquiéter les porteurs d'obligations, en particulier aux États-Unis. On voit l'inflation potentiellement être probablement plus à la hausse aux États-Unis qu'ailleurs à la suite de cette séquence commerciale. Donc ça va être un premier motif. Deuxième motif, c'est un motif autour des déficits, qui est là, pour le coup, généralisé à l'ensemble de géographies. Mais effectivement, dans un scénario de ralentissement économique, ces déficits, ils risquent d'être au moins élevé et stabilisé à des niveaux élevés, voire même d'augmenter. Deuxième facteur de hausse pour les taux d'intérêt. Et puis effectivement, cette thématique autour de changement de positionnement, défiance vis-à-vis du dollar, rebalancement de certaines positions, des facteurs techniques autour de liquidation. Là, on est vraiment dans cette plomberie du marché. Et ça, il faut y être très attentif, parce que ces facteurs de liquidité, souvent dans les épisodes de baisse, ce sont des amplificateurs, ce sont des détonateurs. Ça peut amener une baisse qui semble parfois justifiée d'un point de vue fondamental, devenir quelque chose d'autre. Et donc, effectivement, cette sous-performance aujourd'hui des treasuries aux US, elle interpelle énormément, elle interroge.
Je vous rends hommage, Raphaël, parce que j'y ai beaucoup repensé là ces derniers temps. C'était dans une discussion avec vous autour de ce plateau. On était quelques jours après le déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie, et au moment où, parmi le régime des sanctions, avaient été saisies, confisquées les réserves de change détenues par la Banque centrale russe à l'étranger. Et vous étiez venu nous dire à ce moment-là, détenir du dollar aujourd'hui, c'est un geste politique. Mais je crois que ça n'a jamais été aussi vrai, en tout cas pour certains acteurs de marché.
Vous êtes gentil de le dire comme ça.
Ben non, mais
c'est un risque qui nous inquiète. Aujourd'hui, on va parler des treasuries, mais par exemple, vous avez entendu ce matin que Donald Trump a annulé 500 visas d'étudiants. Donc on parle des mouvements de personnes, on va peut-être parler des mouvements de capitaux, on va parler de M&A. Alors on ne sait pas jusqu'où la musique ira et jusqu'à quel moment on doit s'arrêter, mais effectivement, on dépasse le cadre de flux financiers. Il y a une espèce de défiance vis-à-vis de, d'abord, l'exceptionnalisme américain, exceptionnalisme américain dans un schéma de tarifs qui devrait pénaliser davantage l'économie américaine, il pose question. Et puis effectivement, de retour à cette idée politique que aujourd'hui, pour la Chine, pour le Japon, pour de grands fonds de pension, détenir beaucoup de dollars, beaucoup de treasuries, ça interpelle, ça interroge, et probablement que les gens...
J'ai rarement vu autant d'acteurs de marché mettre en avant ce facteur politique. Généralement, le marché ne se mêle pas trop de politique. Je le citais hier, mais je le recite aujourd'hui. Un stratégiste de Wall Street, qui est le stratégiste de Fundstrat, qui visiblement est le plus gros boule de Wall Street de l'histoire, a complètement capitulé, faisant un mea culpa vis-à-vis de ses clients, déclarant, on s'est trompé sur Trump, sur la stratégie tarifaire de Trump, il a cassé le covenant du capitalisme. Il a cassé des covenants du capitalisme qu'on n'imaginait pas pouvoir être cassés et réduits comme ça à zéro. Covenant, c'est les conditions qui sont attachées quand on fait un prêt. Il y a des ratios, des choses à respecter qui font que le prêt reste... Il y a quelque chose de profondément cassé, y compris pour des gérants américains aujourd'hui. Hein. Gilles, sur la situation de marché.
Ça fait plusieurs mois, nous, qu'on était un peu préoccupés. Et pour être très honnête, on ne comprenait pas exactement le mouvement de hausse post-élection de Trump. sur ce plateau, je vous épargne de ma volonté dans les portefeuilles d'insister sur les titres qui pouvaient permettre d'offrir de la prédictabilité et une moindre variabilité, qui était très ennuyeux. Hein. Alors on parlait de bière, on parlait de réseau électrique, parce que, et c'est là où, à un moment donné, je ne sais pas comment le qualifier, mais le programme de Trump depuis le début n'a aucun sens. Je veux dire, il a aucun sens. On peut le prendre par la macro. Quand je discute avec mon macroéconomiste, il me dit, sauf à croire que les 200 années d'économie qu'on vient de traverser,
on ne servait à rien. Oui.
Mais quand on prend de l'autre côté par la micro, quand on discute avec des entreprises et qu'ils vous expliquent qu'aujourd'hui, le coût du travail au Mexique, hein, c'était le CEO de BBVA, qui est la première banque au Mexique, qui vous explique que le coût du travail, le rapport entre le coût du travail aux US et au Mexique, c'est un rapport de 1 à 7. Que quand vous confrontez ça avec d'autres entreprises, j'avais fait ça, l'exercice avec Legrand, et qui me dit, alors ils n'étaient pas sur 1 à 7, mais eux, ils me disaient aujourd'hui, le marché américain est le marché où le coût du travail est le plus élevé pour nous et on a un rapport de 1 à 5. Vous comprenez très vite que vouloir rapatrier des emplois dans une situation de plein emploi n'a aucun sens. Et qu'en plus de ça, et quand vous mettez en perspective l'interview de Trump hier, son discours, où en fait il se félicite de pouvoir rouvrir des mines de charbon, vous comprenez qu'il a une vue complètement passéiste de l'économie, que ce qui a fait la richesse de l'économie, c'est justement ces théories de vitesse de circulation de la monnaie, que quand on met des tarifs douaniers, on est en train de faire exactement le contraire. Donc on peut le prendre par tous les bouts, mais ça n'a aucun sens depuis le début. Et donc nous, comprenez pas. Alors bon, moi, on n'est pas économiste, on essaye de devoir gérer au quotidien. C'est déjà suffisamment compliqué, donc on essaye de pas se mettre trop contre le mouvement, parce qu'en fait, on peut se faire très mal quand on se met contre le mouvement. Mais c'est vrai qu'on comprenait pas. Ce qui nous semble aujourd'hui néanmoins, c'est qu'effectivement, il y a une très forte pression qui va s'exercer sur les États-Unis aujourd'hui. Et c'est assez marrant de voir qu'aujourd'hui, Trump dit c'est le moment d'acheter des actions.
Ouais,
là, où la semaine dernière, il expliquait qu'il ne voulait pas regarder. Donc peut-être qu'il commence à sentir la douleur. On voit bien que la Chine, en réalité, en répondant œil pour œil, en réalité, certes, va peut-être un petit peu porter la douleur, mais en réalité, elle fait encore plus mal à l'électeur de Trump. Parce que l'électeur de Trump, qu'est-ce qu'il achète ? Il achète des biens chinois qui vont doubler demain dans son panier. Mmh. Et donc, ça veut dire que ça va faire exploser l'inflation. Mais ça veut dire que cet électeur de Trump qui a voté pour Trump pour contrer l'inflation, en réalité, c'est lui qui est en train de perdre. Mmh. Quand il va s'en apercevoir, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il est peut-être en train de déjà perdre les mid-termes. C'est peut-être la bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, d'un point de vue gérant européen, et moi, c'est celle-là que j'ai envie de retenir, c'est qu'en réalité, on retiendra sans doute, et je l'espère, de cet épisode, qu'il a été le réveil nécessaire pour la conscience européenne. Et qu'en réalité, depuis plus de 25 ans, les démocrates avaient complètement anesthésié les Européens parce que justement, ils offraient ce côté safe haven et la protection nucléaire.
Tout en jouant la carte America First. Hein. Tarifs sont restés. Voilà. Enfin, je veux dire, n'a pas bougé. Hein.
Mais qu'en réalité, ils étaient en train de déplacer le centre de gravité sur le Pacifique. Que là, Trump va avoir réussi en l'espace de 6 mois, potentiellement en sortant de l'OTAN, à avoir créé une défense européenne, et donc potentiellement à perdre toutes les influences culturelles. Et à perdre, le plus important, à faire perdre au dollar ce côté monnaie de réserve. Ce qui est, pour le coup, ce qu'était ce côté planche à billets qui les sauvait. Ils avaient la planche à billets qu'aucun autre pays n'avait. Donc en réalité, ça veut dire que pour l'Europe, c'est sans doute bien. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que à court terme, c'est un marché
bon
très
pour personne.
Important.
Ouais. Pour personne à court terme.
Et ça va être bon pour personne à court terme.
Ouais.
Voilà. Mais si on raisonne, et c'est un peu ça que j'ai envie de retenir en tant que citoyen, je me dis, c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais d'un point de vue économique, de toute façon, son truc n'a pas de sens.
Ça veut dire que le long-term game narratif, c'est bon pour l'Europe. C'est-à-dire que c'est en Europe qu'on aura envie de jouer peut-être une histoire longue, plus rentable, plus profitable.
D'autant que si on regarde les flux, encore aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs qui sont encore positionnés sur le marché américain alors qu'ils n'ont pas, vocation, ils n'ont pas raison d'y être. Donc ça veut dire que jusqu'à maintenant, ils y étaient en disant parce qu'à chaque fois, on gagne plus et il y a plus de croissance et en plus, le dollar est fort. Mais en réalité, quand on va faire les comptes à la fin du semestre et qu'on va voir qu'on a perdu sur les actions, mais qu'en plus on a perdu sur le champ,
ça c'est sûr.
Les clients vont dire, mais qu'est-ce que vous avez été faire des actions américaines ? C'est pas votre mandat.
C'est sûr.
Et donc ils vont devoir rapatrier. Et donc ça veut dire que sur l'Europe, on va avoir, alors là ça ne va pas être facile, mais on risque d'avoir un retour de flux, et finalement, il va falloir rendre grâce à l'Allemagne, parce que si elle met en action
oui.
son plan d'investissement, ça pourrait venir amoindrir la douleur, parce que je ne veux pas dire que ça va être suffisant pour compenser, mais qu'en tout cas, on va retrouver peut-être un peu plus de dynamique, ça va venir à... Et que du coup, là où on avait tous dans nos portefeuilles une volonté de largement internationaliser, peut-être que dans un premier temps, on va peut-être chercher à être un peu plus domestique, et en tout cas, moi, la conviction que j'ai, alors même si on regarde toujours les boîtes de croissance qui ont de la visibilité, les softwares, à court terme, je trouve que les réseaux, les télécoms...
Les actifs réels, quoi.
Les actifs réels, mais qui ont cette croissance visible, en plus un peu régulée,
bah
c'est pas mal pour se planquer, parce que surtout les réseaux, parce qu'en fait, on a des investissements obligatoires qui vont faire de la croissance.
Ouais. Alors, avant d'évoquer le long terme, je veux qu'on revienne quand même à ce qui se passe en ce moment, Florian. Où sont les coupes-circuits? Enfin, c'est dans ce genre de situation, si jamais ça dérapait de trop, et c'est peut-être pas cette séance-là aujourd'hui qui en est encore le moment clé, mais je veux dire, là, tout le monde parle de est-ce que la Fed doit intervenir, comment la Fed peut intervenir. On a vu des épisodes comme ça où ça peut aller très très vite. Tout le monde a en tête le playbook Liz Truss, octobre 2002, crise des LDI britanniques qui se joue en une semaine avec, effectivement, alors, d'un côté, des interventions de la Banque centrale d'Angleterre ciblées, spécifiques, sur un temps donné, et de l'autre côté... un pivot politique majeur, puisque dans la semaine, il faut virer le ministre des Finances, et en fin de semaine, c'est Liz Truss elle-même qui est obligée de partir. Et c'est ça qui a permis de régler la dernière crise de marché qu'on a connue ces dernières années.
Avant ça, 2020, l'annonce du premier plan Trump, ouais. 10% du PIB américain, sans plan de financement, les taux réels se mettent à progresser de 80-90 points de base, et le coupe-circuit, c'est la Fed.
Ouais.
Qui intervient. Mais elle intervient dans un contexte où on a coupé l'économie et il n'y a pas d'inflation.
Non.
L'environnement actuel, il est quand même très différent. Donc en général, on va avoir deux disjoncteurs possibles, la Banque centrale ou l'État. Le côté État, est-ce qu'il est possible d'avoir l'État qui joue ce rôle de disjoncteur? Dans l'équipe Trump, je suspecte qu'il y ait un économiste qui un jour a ouvert dans sa vie un papier qui s'appelle Rules Rather Than Discretion, qui est la règle plutôt que la discrétion de Kidd, Land et Prescott, ça leur a valu le prix Nobel, dans lequel ce papier est un papier très simple qui explique que, en général, si vous voulez effectuer de la coercition vis-à-vis d'agents économiques, il faut fixer une règle. Et lorsque vous avez fixé une règle, vous vous êtes lié à vos propres mains et vous devez aller au bout de la règle quoi qu'il arrive. La présentation des droits de douane ressemble furieusement à ça. Ce n'est pas de façon discrétionnaire. On ne nous a pas dit, toi ce sera ça, toi ce sera ça. Ce qu'on nous a dit, c'est, voilà, on a une formule. Alors cette formule, il se trouve qu'en fait, c'est 50%.
Oui, c'est le déficit bilatéral, quoi.
Tout simplement, oui. Mais c'est une formule et c'est au minimum 10% ou ça. Et ça, c'est une règle. Du coup, il va être peut-être difficile pour l'administration de Trump de sortir de cette règle-là qu'elle s'est auto-imposée. Quid de la Fed?
Il y a une forme d'impasse, là, vous dites, dans la manière dont les négociations commerciales ont été posées par l'équipe Trump.
Si cette règle a été choisie consciemment, en ayant conscience de cette différence entre une règle discrétionnaire, un élément discrétionnaire, alors probablement qu'on risque de devoir se tenir à cette règle-là. Et de toute façon, cette règle-là est le meilleur moyen de régler ce problème de déficit commercial, puisque je vous force à venir vers moi, je vous force à exporter moins, je vous force... Si quelque chose peut bouger dans le système, c'est la seule façon coercitive de vous y amener. Est-ce que ça a du sens ou pas de sens? C'est pas le point.
C'est
un mécanisme de coercition.
C'est la donne du moment.
Qu'on comprend assez bien. Par contre, est-ce qu'il y a un fusible de l'autre côté Fed? Ça, c'est la question du moment, parce qu'on a de l'inflation devant nous, on a le rapport sur l'inflation demain. Les anticipations d'inflation, les break-even, comme le disait Raphaël, progressent à un an. Au début, c'était un choc sur l'année 2025 qui était pricé, mais pas 2026. Là, maintenant, on a un choc sur 2025 et 2026 qui a commencé à être pricé. Là où on price moins d'inflation, c'est sur la partie longue. Et en général, c'est la partie longue qui... C'est le break-even d'inflation, c'est l'anticipation d'inflation à 10 ans qui se met à baisser dans les mauvais moments. C'est lui qui nous amène ce fameux effet de diversification. Clairement, on n'y est pas. C'est très visqueux. Trop d'inflation encore dans les systèmes. La Fed est mal à l'aise par rapport à ça. Il est difficile aujourd'hui de voir la Fed agir. Maintenant, ouais. La Fed, son premier rôle, on le rappelle toujours, c'est d'être le gardien de la stabilité financière.
Ouais, bien sûr.
Si on voit des taux qui dépassent les 5% sur les 10 ans...
Pas de stabilité des prix et pas de croissance sans stabilité financière.
Ça, c'est le premier mandat. C'est aussi le premier mandat de la BCE. C'était le mandat que Draghi avait empoigné. Il est possible qu'on fasse de même du côté américain. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de panique. S'il n'y a pas de panique, il n'y a pas de problème de stabilité financière.
Le marché continue de fonctionner, parce que c'est ce qui fait intervenir la Fed en 2020. C'est une telle demande pour le dollar que tout s'assèche, et qu'on a des marchés qui dysfonctionnent. Est-ce qu'on est déjà proche d'un moment comme celui-là, Raphaël, ou est-ce qu'il y a encore un peu de place pour laisser les prix s'ajuster, si c'est le sujet?
Alors, on n'en est pas là aujourd'hui. On ne voit pas encore de crise de liquidité grave. On constate qu'il y a des tensions, très clairement, y compris sur des marchés liquides où on a beaucoup de mal à obtenir de bid. On commence à voir quelques ventes forcées. Ce n'est pas encore des dislocations majeures sur certains de ces marchés, mais on commence à sentir le stress. On voit que sur aussi des marchés moins liquides, semi-liquides, on a des problématiques de sortie. On va parler par exemple des CLO, où on sait qu'aujourd'hui il y a des pressions vendeuses, y compris des ETF, dans un marché qui s'y prête mal. Donc ça, c'est des choses qu'on va regarder. Mais on n'est pas encore dans un moment où le funding disparaît et où la Fed doit intervenir. Les banques centrales, on l'a bien dit, elles sont très contraintes aujourd'hui, de toute façon. Donc en termes de disjoncteurs, on va être déçus. Elles ont cette problématique d'inflation sur les bras, la Fed en particulier. D'ailleurs, on l'entend dans le discours ces derniers jours. Elles sont toutes là à dire, attendez, pour l'instant, nous, on ne fait rien. Il n'y a pas de raison d'agir. On sent qu'elles vont vouloir retarder un petit peu le mouvement. Il y a aussi un dernier effet disjoncteur quand les marchés commencent à corriger ou quand les économies commencent à vaciller et qu'on voit vraiment des baisses significatives, c'est les valos. Ouais. Quand on peut se dire, ah bah ça y est, les valos sont suffisamment peu chers, je ferme les yeux, je pense à autre chose, j'achète et demain tout ira mieux. Et là aussi, ce disjoncteur, il est très contraint. Les valos, elles ne sont pas chères.
C'est pas un screaming buy, là?
C'est loin d'être un screaming buy, selon nous. Sur les primes de risque, sur le crédit, on a péniblement dépassé les 400 points de base sur la yield. On est assez loin d'un scénario de ralentissement, de récession, d'augmentation des défauts. Sur les actions, c'est encore plus frappant. On est aujourd'hui au-dessus des moyennes historiques, en particulier aux États-Unis. Des valorisations en plus qui sont optiquement probablement trop élevées. On sait que probablement les BPA vont être corrigés à la baisse dans les semaines à venir. Ouais. Donc finalement, on est peut-être plus cher qu'il n'y paraît. 18 fois, c'est le chiffre officiel sur les S&P. Peut-être qu'on est à 20, en fait.
Ouais.
Et si vous regardez sur les plus bas de marché en termes de valorisation sur les crises précédentes, ouais. Au S&P, on est plutôt à 15, 14, voire en dessous. Là, aujourd'hui, on est plutôt à 18. Et en Europe, on est plutôt parfois même en dessous de 10. Là, aujourd'hui, on est plus proche de 13. Donc, la Fed ne sera absente. C'est difficile de rentrer en disant que le marché est suffisamment pas cher. Ça laisse beaucoup de place pour qu'encore, on ait une continuation de cette tendance.
Ouais. Ça va être la séquence de résultats d'entreprise, là, alors, qui va être, j'imagine, très particulière. Comment les entreprises vont pouvoir offrir des perspectives? Est-ce que ça va être aussi une forme de contre-pouvoir? Est-ce que la parole des CEO aux États-Unis, en Europe, va se libérer d'une certaine manière un peu plus que d'habitude pour expliquer quand même toutes les conséquences de la situation et en tout cas de tarifs s'ils étaient amenés à rester en place à ces niveaux-là.
Je pense que sur les perspectives, il ne faut pas s'attendre à avoir beaucoup de choses puisque je pense que pour un certain nombre d'entreprises, elles sont comme nous, que la situation actuelle d'incertitude et au-delà même de l'incertitude qu'il y a là, si demain on devait avoir une annonce que tout s'arrête. La réalité, c'est qu'en réalité, on a créé un climat d'incertitude et que de toute façon,
le mal est fait
que les décisions d'investissement sont stoppées et qu'il faudra quelque chose, il faudra regagner de la confiance. Donc le dé de la confiance, qu'est-ce qui peut être, qui peut faire qu'on regagne de la confiance? Est-ce que c'est un départ de Trump, quoi? Quelque chose qui pourrait, mais ça va pas se faire du jour au lendemain.
Citer le départ de Trump qui avait permis de terminer la crise des LDI britanniques, personne n'imagine un départ de Trump.
Mais, non, bien sûr, mais du coup, la confiance va parvenir. Donc, le choc sur l'économie va arriver. Ouais. Donc, quand on est un dirigeant d'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est compliqué. On ne va pas faire des promesses qu'on ne va pas tenir, c'est encore pire. Donc, c'est d'essayer d'avoir des communications à minima sur les éléments qu'ils peuvent avoir sous contrôle. Et là encore, suivant les secteurs, c'est très compliqué. C'est-à-dire que il y a des secteurs où vous avez plus de visibilité. Et donc on en revient vraiment à ce positionnement. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est plus facile de donner de la visibilité quand vous êtes un opérateur de réseau électrique, parce que, surtout si c'est de la transmission, parce que c'est des projets qui sont planifiés à 10 ans. Et donc là-dessus, bah, il ne va pas se passer grand-chose. Surtout qu'on en a besoin, donc ça ne va pas s'arrêter. Si c'est de la distribution, ça peut être un peu plus volatile, mais ça l'est moins, que si vous êtes dans la production automobile, où là, vous ne savez pas quelle sauce vous allez manger. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les secteurs où les CEO peuvent avoir un tout petit peu de visibilité sur une part, on aura peut-être des messages, mais sur les autres secteurs, dans l'ensemble, on devrait avoir des messages qui devraient être à minima sur le trimestre, mais certainement pas sur la
fin. Est-ce qu'on peut imaginer que des entreprises européennes, en l'occurrence celles que vous suivez, fassent des annonces d'accélération de leur plan d'investissement aux États-Unis, ou à l'inverse, c'est pas du tout le sujet, voire pire, est-ce que peut-être que des programmes d'investissement annoncés aux États-Unis vont se retrouver mis en suspens pendant une période à définir ?
Là encore, je...
Parce que Trump, il attend ça.
Non, là encore,
je pense
qu'au cas par cas, il s'est félicité d'avoir CMA-CGM qui investissait aux États-Unis. La belle affaire. CMA-CGM avait besoin, c'est son métier, d'avoir accès à des terminaux portuaires. Je veux dire, il n'y avait pas besoin de tarifs, il y avait besoin... En plus, ils se font bien voir. Donc, il a été très malin. Et en plus, il a été lui présenter sa carte où il faisait avec le marqué Gold d'Amérique dessus. Donc, le mec a été très malin. C'est de la pure opportunité.
S'il était très content de se retrouver dans le bureau ovale avec le grand tableau à côté de Trump, comme un petit enfant. Mais bon, c'est un avis personnel.
En tout cas, tout le monde parle de lui, tout le monde parle de son investissement. Mais son investissement, il l'aurait fait quoi qu'il arrive.
Il y avait un risque quand même qu'on mette des tarifs sur les bateaux. Donc il y avait bien une logique.
Non, mais il y avait une logique. Donc de passer au travers. Bon, est-ce que on a eu pas plus tard qu'il y a deux semaines, Prysmian qui a annoncé qu'il rachetait une entreprise aux États-Unis. Mais pourquoi ? Parce que pour eux, c'est un gros marché. C'est où il y a quand même, de toute façon, qu'on veuille ou non, beaucoup de data centers et que ça les intéressait. Mais dans les investissements qui vont être faits aux États-Unis. Seront des investissements faits pour du local. Je ne suis pas sûr qu'on aille faire de l'investissement aux États-Unis pour aller faire avec une destination d'export.
Ah ben non.
C'est juste parce qu'on a besoin et que ça reste un gros marché. Ça reste un marché de 350 millions avec une certaine richesse. Et donc, voilà. Mais je ne suis pas sûr que... ça change complètement la nature. Et d'une certaine manière, après, ça peut aussi avoir un côté opportuniste, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça coûte quand même 10% moins cher qu'en début d'année, parce que le dollar a baissé. Donc voilà, je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer des règles définitives, parce que pour l'instant, je pense que ça va surtout mettre de l'intentisme, et que soit répond à un besoin immédiat, et auquel cas, pourquoi pas, mais sinon, je pense que ça va surtout mettre de l'intentisme.
On verra. La parole des CEO américains va être quand même très intéressante à suivre pendant cette période-là. Florian, je voulais bien qu'on dise un mot de la Chine aussi. Alors, on voit, Raphaël l'évoquait tout à l'heure, il y a visiblement l'idée quand même d'envoyer un signal à travers le fixing quotidien du yuan qui permet d'affaiblir un petit peu le yuan tout en restant assez modéré. La Chine n'a pas d'intérêt à long terme à dévaluer fortement sa monnaie. C'est une arme qui est aussi compliquée pour Pékin. Mais cette arme, elle est sur la table aujourd'hui ?
Elle est potentiellement sur la table. Et il faut aussi avoir en tête que désormais, si la politique de Donald Trump fonctionne, ils vont se retrouver à réonboarder des emplois qui sont des emplois à plus faible productivité. Donc la Chine va faire face à un pays en face d'elle dont la monnaie occupe une grande part du panier qui sert à définir la valeur du renminbi, dont la productivité risque de se dégrader dans les 5 à 10 prochaines années. La productivité, c'est ce qui fait le rendement de vos actifs. La zone euro, souvenez-vous, 2005-2007, la golden period de la zone euro, où l'euro progressait fortement et l'Eurostock était le Nasdaq de l'époque. Good old days. On risque de se retrouver dans une situation, enfin les Chinois risquent de se retrouver dans une situation où le dollar aura structurellement tendance à s'affaiblir. Probablement que ce qu'on est en train d'observer là, en ce moment, ça n'est que la première étape de cet affaiblissement. On pourrait avoir, sans avoir de Mar-a-Lago Agreement, je comprends. Pourrait avoir en fait un déclin progressif du dollar contre lesquels auquel la Chine va avoir à faire et à gérer activement cette situation-là. Donc il faut aussi penser que progressivement ils doivent aménager
eux-mêmes, s'ajuster effectivement à l'idée d'un dollar plus faible demain, quoi.
Exactement. Qui est tout à fait naturel. Les Européens seront très contents d'avoir un euro plus fort, les Chinois le seront probablement un peu moins.
Bon, bah, gardez la parole sur le plan de l'investissement, de la gestion d'un portefeuille diversifié aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, je veux dire, déjà, la question des refuges, c'est quoi des refuges qui fonctionnent dans un stress de marché ? Et la séquence est un stress test intéressant de ce point de vue-là. On évoquait le rôle des treasuries, qui ne fonctionne pas aussi bien que ce qu'on pouvait imaginer. Où est-ce qu'on trouve d'autres refuges ? Et j'allais dire, comment on se prépare aux coups d'après ? Quels vont être les coups d'après dans un marché qui est un marché en bear market aujourd'hui pour des grands indices américains en l'occurrence.
Alors, quand on regarde le dashboard qui nous sert à piloter notre gestion diversifiée, on a des volatilités qui ont progressé, on a un drawdown qui est clair, on a un sentiment qui est clairement dégradé et des tendances qui sont en baisse. Tout ça, nous, naturellement, notre réflexe, c'est la règle plutôt que la discrétion, c'est de délester nos portefeuilles globalement de nos expositions. Pas que des actions, mais également des obligations et du crédit dans l'ensemble. Donc on a eu, en début d'année, on avait une exposition de marché totale de 150%, qui est notre moyenne de long terme dans nos portefeuilles, dans notre stratégie multi-asset classique. Aujourd'hui, on a 70% d'exposition. Donc on a divisé par deux nos expositions, on a 30% de cash. Ça, c'est la première mesure qu'on a prise, parce que le cash, que ce soit en euros ou en dollars, il reste très attractif. Ouais. En France, suisse, beaucoup moins, malheureusement, pour nos clients.
On a vu des taux négatifs sur le 2 ans suisse quelques jours.
Les rumeurs montent.
Déjà, sur les taux de marché, on les a vus brièvement repasser sous zéro, je crois.
Exactement. Donc ce cash, pour nous, ça reste attractif, d'une façon habile, en tout cas, de diluer cette phase de flight to liquidity que je mentionnais précédemment. Des 70% qui nous restent, on va avoir à peu près 50-55% d'exposition au marché classique, bien diversifié. On conserve la moitié de nos expositions quand même en obligations globales, mais on va avoir 15-20% d'exposition à des stratégies convexes, à des stratégies de volatilité, à des stratégies de suivi de tendance intraday, des choses qui vont nous aider justement à mieux gérer, à jouer un rôle de tampon le temps que progressivement on arrive à continuer à leverager. Si la baisse se poursuit, si cet ensemble de facteurs négatifs que je décrivais reste avec nous, et au contraire, si les choses s'améliorent, on sera ravis de reparticiper à nouveau à la montée des marchés. Aujourd'hui, pour nous, on passe d'une zone de prudence à une demi-défense.
D'accord.
Là où on est, le point le plus bas de l'exposition, c'était 30% d'allocation marché total, donc 70% de cash. Souvenez-vous, en 2022,
oui, je me souviens très bien.
On y est.
C'est vrai que j'avais pas en tête que 150% d'exposition, c'était votre moyenne, parce que moi, je vous ai rencontré à l'époque, vous étiez 70% cash, Florian. Donc, effectivement. J'entends.
Voilà comment on aborde les choses aujourd'hui. En fait, on passe de, même plus collectivement pour Lombardier Investment Manager, on est passé de chercher de la résilience dans les portefeuilles à activement chercher de la défense pour protéger
un cran supplémentaire, effectivement, dans la protection des portefeuilles du capital. Quelle attitude est-ce que vous adoptez là chez Tikehau Capital aujourd'hui pour la partie marché de capitaux, notamment Raphaël ?
On est aussi très prudent. On considère que c'est un changement de régime économique, un changement de régime de marché, que c'est probablement le début d'une phase qui pourrait durer. On n'a aucune idée de ce qui se passera demain. Probablement qu'on aura une forme de désescalade à un moment. Probablement qu'on aura des négociations autour de ces droits de douane.
Les tarifs chinois peuvent pas rester à 100%.
Je pense que là, on est dans un scénario de destruction mutuelle massive qui n'arrange personne.
Qui va très vite, en plus.
Qui va très vite. Donc probablement qu'il y aura des bonnes nouvelles, des soulagements de marché, des rebonds erratiques. C'est vraiment là où on est aujourd'hui. On ne préjuge pas de ces jours à venir. Sur le long terme, le constat, et c'est ça qui importe pour l'investisseur, perspective de croissance, perspective bénéficiaire des entreprises, perspective d'avoir des banques centrales aussi en soutien. Ces trois critères d'investissement long terme, ils sont aujourd'hui assez significativement endommagés. On est en train de réviser toutes nos hypothèses d'investissement ligne à ligne, à réviser à la baisse effectivement le potentiel de croissance de bénéfices, à imaginer aussi que sur les taux, il ne va pas falloir non plus trop compter sur les interventions massives. Et donc ça, sur le long terme, c'est ça que ça veut dire, indépendamment presque des quelques jours à venir, des négociations à venir. Donc ça fait du cash, clairement. Le cash, c'est important aujourd'hui pour avoir aussi la capacité de redéployer quand les valos redeviendront attractives. Encore une fois, aujourd'hui, elles ne sont pas nécessairement, on n'a pas envie de se précipiter. Et puis effectivement, la défense, c'est le bon mot, aller chercher des valeurs plus défensives. On en a beaucoup parlé, mais on a plus d'Europe, on a l'impression que l'Europe semble effectivement plus immunisée, on va dire, à cette dimension commerciale que d'autres géographies, et qu'en particulier les États-Unis. Et puis évidemment, une analyse ligne à ligne, donc à l'ordre 1, pour chaque entreprise, quel est l'impact d'éventuels droits de douane, certains secteurs seront plus touchés que d'autres, faire des scénarios. Et puis aussi à l'ordre 2, dans un scénario de ralentissement économique, pour certains secteurs plus cycliques évidemment, là aussi l'impact pourra se faire sentir. On se rend compte beaucoup dans notre univers européen, et je parle sous contrôle de Gilles, mais que à l'ordre 1, beaucoup de ces tampons sont absorbables. Que, en fait, finalement, en particulier chez les plus petites entreprises, l'exposition globale, que ce soit chaîne d'approvisionnement, pourcentage de chiffre d'affaires, c'est absorbable, c'est raisonnable. C'est l'ordre 2 qui inquiète aussi. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe s'il y a une récession, un ralentissement ? L'Europe est globalement un peu plus cyclique que d'autres géographies. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est aussi là-dessus qu'on regarde beaucoup les portefeuilles. Donc voilà, une analyse ligne à ligne, plus de cash, plus de défense, un rééquilibrage vers l'Europe. Et puis peut-être aussi pour finir, beaucoup de perdants dans cette histoire, évidemment. Et puis peut-être quelques gagnants. Et dans ces gagnants, évidemment, par exemple, la défense européenne, comment ne pas en parler ? Oui, dans ce nouveau monde, on va renforcer nos capacités de défense en Europe, on va acheter européen, c'est un exemple. Et vous me voyez venir, il y a probablement un prolongement à cette notion de défense, nous on parle beaucoup de souveraineté.
Oui, d'autonomie donc, stratégique, souveraineté, bien sûr.
Aujourd'hui, voilà, c'est la défense. Demain, est-ce que ça sera la pharma ? Bien sûr. Ça va être le sujet de bien conversation sûr. Des jours.
Mais c'est un thème qui s'élargit.
Qui doit pouvoir s'élargir. En tout cas, qui n'a pas de raison de s'arrêter nécessairement à la défense.
Ouais. Gilles, sur les actions européennes,
Dans la continuité de ce bien sûr. Je pense qu'effectivement, sur la souveraineté, c'est un vrai sujet. Et c'est quelque chose qu'on regarde de près. Et je pense que l'énergie, et notamment l'électrification de l'économie, parce qu'on pourrait se dire, avec Trump, c'est aussi la fin de la transition énergétique. En réalité, ça va être un accélérateur sans doute pour l'Europe, parce qu'en réalité, le seul moyen pour l'Europe qui n'a pas de ressources
d'être indépendante,
c'est de passer, d'électrifier encore plus son économie, sachant que les process industriels aujourd'hui, de plus en plus, s'électrifient. Donc, cette électrification, elle reste une lame de fond, et elle passe. Alors, je le répète, mais parce que pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le havre de paix dans le portefeuille par les réseaux.
Ouais.
Parce que, et c'est pour ça qu'on ne fera pas l'économie et qu'on a de la croissance visible. Et derrière les réseaux, on peut venir plugger un certain nombre de choses. Ouais. Des câbles, des choses comme ça. Alors, il y a forcément une composante cyclique. Mais du coup, dans des portefeuilles actions, malheureusement, qui plus est européen, en termes de diversification, on ne peut pas faire vraiment du cash, on ne peut pas faire. Donc, on a des actions européennes.
Oui, je comprends.
Et donc, c'est dans la structure du portefeuille, on va chercher ces actions plus prédictibles, plus prévisibles. Donc, on avait remonté la consommation durable, qui est en plus, qui se traite sous les moyennes de long terme. Alors, encore une fois, ça ne fait pas rêver. Mais quand on a du Heineken qui doit se payer 13 fois, que la moyenne de long terme, c'est plutôt 15 fois. Il y aura peut-être un petit peu moins de consommation de bière, mais s'ils ratent, ça ne va pas être de grand-chose. Ouais, et comprends. Que globalement, ils vont quand même avoir une croissance attendue cette année entre 4 et 8%. Bon, même s'ils font 4, on ne leur en voudra pas. Donc, c'est vraiment d'essayer de rajouter cette composante-là, visible, prévisible. Et à côté de ça, profiter des baisses pour quand même revenir sur les titres qu'on aime bien et qui sont des titres qui ont des positionnements structurels au sein de leur secteur qui sont forts. On peut penser à des softwares, un Dassault System, un SAP qui corrige. Revenir sur ces leaders européens. Et enfin, parce que c'est un secteur qui a porté la performance depuis 5 ans, les bancaires qui, pour l'instant, sont pas encore dans un scénario, quoi. On n'est pas encore tout à fait dans un scénario de récession.
Mais la rupture a été violente, quand même.
La rupture a été très violente. Ouais. On retrouve des niveaux de valorisation, et au-delà de la valorisation, parce que c'est pas forcément un matelas suffisant. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'elles vont distribuer du cash. Oui. Et quand on prend un Intesa, un BNP, on est sur des 10% de rendement.
Ah ouais.
Et elles ont des bilans qui sont bien
plus solides. Qui le permettent.
Oui. Bien plus solides que lors de la précédente crise. Oui. Donc je crois pas qu'on puisse répliquer les modèles d'il y a 15 ans. Et donc les banques, quelque part, peuvent retrouver un tout petit peu d'intérêt si elles baissent à la faveur de la baisse.
Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Guibout, AXA IM, Florian Hielpeau, Lombard Odier IM et Raphaël Thuin, Tikehau Capital.